magazine des Nations Unies.
Bonjour et merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. Village incendié, acte de torture et pillage toujours au rendez-vous dans le triangle de la mort au Katanga. Cette situation d'insécurité permanente affecte l'action humanitaire dans cette province. Ocha l'a souligné au cours de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO mercredi dernier. Les détails dans Actualité de la semaine. Comment promouvoir et défendre le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, au logement, à l'emploi et bien d'autres droits? Un atelier organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'est tenu à Kinshasa à cet effet. Vous suivrez un responsable de cette section de la MONUSCO dans la rubrique décryptage. La procureure de la Cour pénale internationale vient de séjourner à Kinshasa. Fatou Bensouda s'est entretenu avec le président de la République et les autres autorités politiques et judiciaires du pays. Quels ont été les points abordés au cours de ces différentes rencontres? La réponse avec Fatou Bensouda elle-même, elle sera notre invitée.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour à tous. Nous vous le disions dans le sommaire, au Katanga, l'action humanitaire est affectée par l'insécurité quasi permanente provoquée par des miliciens Maïmaï, notamment sur l'axe Manono-Mitwaba-Pueto. C'est ce qu'a indiqué le chargé de communication de Ocha. C'était mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Des villages incendiés, des actes de torture et de pillage sont devenus monnaie courante dans cette partie du pays. Les populations sont contraintes de trouver refuge ailleurs. Les détails avec Jean-Pierre Elali Coco.
Ces derniers jours, des actes d'incendie des villages sont signalés dans les triangles Manono-Mitwaba-Pueto. Ces villages ont été incendiés par des éléments Maïmaï entre les 6 et 9 mars dernier dans le territoire de Mitwaba, a indiqué Sylvestre Ntumba Mudingai, chargé des communications à Ocha. Cette situation d'insécurité oblige des populations entières à se déplacer dans les localités environnantes. Plus loin à Manono, des attaques de villages avec incendie, des pillages et des actes de torture à l'endroit des civils se sont multipliés. Par conséquent, cette situation affecte l'action humanitaire, comme l'affirme Sylvestre Ntumba Mudingai.
Plus de 5700 personnes qui avaient déjà reçu des jetons pour bénéficier des articles ménagers essentiels sur l'axe Mpiana-Chamwana ont été obligés de se déplacer à nouveau vers Manono Centre suite à l'insécurité dans la zone.
Par ailleurs, les offensives des FARDC contre le Maïmaï continuent à provoquer des mouvements de population, obligeant les habitants à déserter leur village par crainte de représailles. Et dans ces conditions, la scolarisation des enfants n'est assurée qu'à moins de 30%.
Cette situation de déplacement ne favorise pas la scolarisation des enfants. À Pueto, par exemple, seuls quelques 8400 enfants de 6 à 11 ans fréquentent l'école sur un total de 28630 enfants déplacés, donc moins de 30%. Les déplacements à répétition et le manque de moyens financiers sont à la base de cette situation. Grâce au financement du Fonds commun humanitaire et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, un partenaire local prend en charge la scolarisation des quelques enfants déplacés à travers la formation des enseignants, la distribution de fournitures scolaires, la construction des salles de classe et la sensibilisation des élèves sur la cohabitation pacifique et à la promotion de l'hygiène.
Devant ces tableaux sombres, le partenaire de l'éducation sont en train de mener des plaidoyers. Objectif est mobiliser d'autres ressources pour permettre aux enfants non scolarisés de retrouver le chemin de l'école.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Du 11 au 13 mars dernier, il s'est tenu à Kinshasa un atelier sur le monitoring des droits économiques, sociaux et culturels. Des représentants des ONG des droits de l'homme et des institutions étatiques ainsi que ceux de quelques agences onusiennes ont pris part à cette formation organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH. L'un des animateurs de ce forum, Raphaël René Yo Office, coordonnateur de la task force de ce bureau sur les droits économiques, sociaux et culturels, est notre invité. Dans cette émission, il répond aux questions d'Honoré Missengakalala.
Raphaël René Yo-Office, bonjour.
Bonjour à vous.
Qu'entendez-vous par droits économiques, sociaux et culturels?
Les droits économiques, sociaux et culturels, c'est les droits de l'homme. C'est ce qu'on appelle la deuxième génération de droits de l'homme, après les droits civils et politiques. Et puis, il y a une autre catégorie qu'on appelle les droits collectifs. C'est des droits de créance. C'est le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit aux conditions de vie suffisantes, le droit au logement, le droit à l'alimentation. Donc, vous comprenez que c'est les droits basiques de tous les citoyens dans une société.
Dans une société comme celle de la RDC, quels peuvent être les indicateurs des droits économiques, sociaux et culturels?
Nous avons globalement trois sortes d'indicateurs dans cette matière-là. Nous avons ce qu'on appelle les indicateurs structurels. Donc c'est le cadre juridique qui est pris par le pays pour garantir ses droits. En RDC, c'est l'exemple de la Constitution qui garantit tous ces droits-là économiques, sociaux et culturels. Maintenant, vous avez également une seconde catégorie d'indicateurs qu'on appelle les indicateurs processuels. C'est-à-dire que quand il existe une loi ou une politique comme indicateur structurel, l'indicateur processuel serait de mettre en œuvre ce droit. Donc, de construire, par exemple, si on parle du droit à la santé, de construire des hôpitaux, de former des médecins et des techniciens de laboratoire, de mener des campagnes de sensibilisation, etc. Et vous avez une troisième catégorie d'indicateurs qu'on appelle les indicateurs de résultats. Donc, c'est de voir si cette politique a produit des effets positifs ou négatifs. Et en cas d'échec, voir dans quelle mesure on peut reformuler les politiques ou alors revoir le processus dans lequel on les a mis en œuvre pour pouvoir rectifier le tir et puis avancer dans la bonne direction.
Raphaël René Office, pourquoi un atelier sur ces droits maintenant en RDC?
Mais le bureau conjoint aux droits de l'homme s'occupe des droits de l'homme, donc on s'occupe du monitoring et du reporting des droits de l'homme comme mission essentielle. Mais le contexte de la RDC, depuis la création de la mission au Congo, a fait qu'il y a eu un focus qui était beaucoup plus porté sur les droits civils et politiques par rapport aux conséquences de la guerre. Et donc aujourd'hui également, quand vous parcourez la RDC, vous vous rendez compte que les gens ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de travail, des problèmes d'éducation des enfants, des problèmes de logement. Donc c'est des droits qui sont importants. Il est important d'en parler pour que les gens sachent que nous défendons au niveau du bureau conjoint ces droits économiques, sociaux et culturels au même titre que les droits civils et politiques. Que ce n'est pas des droits à part, ce n'est pas des droits oubliés, c'est des droits de l'homme qui sont essentiels, basiques et qui sont extrêmement importants dans une société.
Quels sont les objectifs que le bureau conjoint s'est fixé en organisant cet atelier?
L'objectif principal, c'est de vulgariser cette notion de droit économique, social et culturel. Nous nous sommes aperçus que non seulement nous, au sein du bureau, on avait porté l'attention nécessaire à ces droits, mais que même les ONG de droits de l'homme n'étaient pas outillées sur cette question. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir outiller les ONG à travers tous les thèmes qui sont développés pour qu'elles soient à même de pouvoir faire le monitoring de ces droits, de faire des rapports sur ces droits, de faire des plaidoyers sur cette catégorie de droits, d'ouvrir un dialogue constructif avec les autorités par rapport à la promotion et par rapport au respect de ces droits économiques, sociaux et culturels.
Oui, mais en dehors des représentants des ONG, j'ai vu dans cet atelier des représentants des institutions du pays.
Oui, on a associé également les autorités gouvernementales parce qu'on a estimé qu'il faut que tout le monde soit au même niveau d'information pour que le dialogue qu'on veut constructif puisse être instauré. Il est inadmissible de former des activistes alors qu'on n'a pas parlé aux autorités de cette question, ce qui fait qu'il y aura deux niveaux de compréhension de la question et ce ne serait pas bon pour la stratégie qu'on veut mettre en place. Donc il était important de réunir tous les acteurs, y compris d'ailleurs les collègues de la MONUSCO de plusieurs sections qui sont également ici. Donc nous avons associé tout ce monde-là pour que nous puissions parler le même langage et que les gens se rendent compte que c'est extrêmement important de parler de cette catégorie de droits.
Vous avez également parlé des obligations spécifiques des États. Que peut-on retenir à ce propos?
C'est important que nous revenions sur certaines obligations. L'État a trois obligations fondamentales en matière de droits de l'homme. Les obligations de respecter, de protéger, de mettre en œuvre. Mais en matière de droits économiques, sociaux et culturels, vous avez ce qu'on appelle des obligations immédiates et des obligations de réalisation progressive. C'est important de le signaler également. C'est aussi important de signaler que dans cette matière de droits économiques, sociaux et culturels, l'État a l'obligation de respecter ce qu'on appelle les obligations fondamentales minimum. C'est-à-dire que l'État s'engage à agir et doit prendre des mesures progressives, au jour le jour, étape par étape, pour faire respecter le minimum de ces droits économiques, sociaux et culturels. Quand vous lisez le pacte relatif à ce droit, vous vous rendez compte qu'on tient compte des difficultés des États à pouvoir garantir la réagence de tous ces droits. C'est pour cela que c'est des droits d'application progressive en fonction des ressources dont dispose l'État. Mais en même temps, ça ne signifie pas que l'État va se croiser les bras et ne rien faire en évoquant le manque de moyens. Non, il s'agit de faire un tout petit peu chaque jour de manière à avancer, n'est-ce pas, dans la voie de la réalisation des droits au fur et à mesure que la société évolue.
Et par rapport à ces obligations, on peut intenter une action judiciaire contre l'État en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels.
Mais il s'agit de droits garantis par la Constitution. Le droit au logement est garanti par la Constitution, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un niveau de vie suffisant, c'est garanti par la Constitution, le droit à l'alimentation, c'est garanti par la Constitution. Donc il s'agit de voir ici, de réfléchir avec les partenaires de la société civile et des ONG, dans quelle mesure on peut saisir la Constitution pour non-respect par les États des obligations contenues dans la norme suprême qu'est la Constitution. Donc il s'agit des obligations qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont là depuis trop longtemps et que l'État doit pouvoir respecter.
Raphaël Renéo, dernière question, en dehors de cet atelier, qu'est-ce que le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme envisage de faire pour la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo?
Mais comme je l'ai dit déjà, nous possédons ces sessions d'échange et de renforcement de capacité de la société civile des ONG. Nous avons une demande formelle du gouvernement du Nord Kivu pour former les ministres provinciaux et le Parlement provincial par rapport à ces droits. Nous attendons des demandes similaires du Sud Kivu. Le Katanga a également émis le vœu de voir former les autorités provinciales par rapport à ces droits. Je pense que la question est celle-là aujourd'hui. Je pense qu'on prend la mesure de la situation et que tout le monde se rend compte que c'est des droits basiques du citoyen normal et qu'il est important de penser à les réaliser. Il est important de penser au droit au travail. Il est important de penser au droit au salaire. Il est important de penser au droit à la santé, au droit à l'éducation, au droit à un niveau de vie suffisant du Congolais. C'est important de penser à toutes ces questions. Je pense que les autorités en sont conscientes. Donc il est question aujourd'hui que les citoyens soient mis dans une logique de ce que nous appelons l'approche fondée sur les droits de l'homme. Donc que les citoyens soient conscients de leurs droits et que les autorités également soient conscientes de leurs obligations et qu'elles soient amenées, en fonction des moyens qu'elles ont, à pouvoir les respecter.
Raphaël René, au office, merci.
Quelques nouvelles en bref à présent. Retirer de la circulation 2500 armes légères ou de petit calibre, tel est l'objectif du projet pilote de désarmement volontaire des civils lancé mercredi dernier en Ituri par le gouvernement avec l'appui du PNUD. Ce projet d'une durée de 4 mois coûte $400 000. Il faut noter ici que le programme des Nations Unies pour le développement est la seule agence du système onusien à intervenir dans le désarmement volontaire des communautés civile. Volet humanitaire, 441 tonnes de vivres en faveur de plus de 24 000 personnes déplacées, retournées et membres des familles d'accueil et autres vulnérables à Luntukulu, en territoire de Walungu. Il s'agit là d'un don du programme alimentaire mondial, le PAM, offert la semaine dernière. Ces vivres devraient couvrir les besoins alimentaires de ces populations pendant 30 jours. Enfin, 145 nouveaux réfugiés centrafricains recensés mardi dernier à Zongo, dans l'extrême nord de l'Équateur. Une information de la Direction Générale de Migration, DGM, confirmée par la société civile locale. Après les formalités d'usage à la DGM, ces nouveaux venus ont été orientés vers le bureau local du HCR pour leur enregistrement et leur prise en charge. Ces personnes ont fui les violences qui ne cessent de secouer leur pays, la Centrafrique, depuis l'année dernière.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a achevé jeudi dernier sa visite de travail de 24 heures à Kinshasa. Après avoir échangé avec le président de la République, elle a animé une conférence de presse dans la soirée pour rendre compte de son séjour. Elle répond ici aux questions de Jeff Ngoy. Suivez.
Fatou Bensouda, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui ressort de votre bref séjour? Qu'est-ce qui ressort de vos entretiens que vous avez eus avec les autorités politiques et judiciaires congolaises?
Bon, je suis venu à Kinshasa cette semaine pour avoir des réunions, entretiens avec les autorités concernées pour discuter avec eux comment on va faire pour continuer notre travail ici en RDC. Et surtout pour signaler que notre travail va continuer. C'est pas terminé, même si on a terminé peut-être quelques procès et les autres sont en cours, mais c'est nécessaire de signaler qu'on va continuer à travailler, on va continuer à regarder les autres régions et comment on va faire pour coordonner nos actions, notre travail.
Et quelle perception avez-vous vous-même de la lutte contre l'impunité en RDC?
Je pense que c'est très important de toujours donner le signal qu'on va se battre contre l'impunité, parce que c'est la justice fait partie d'un des moyens d'apporter la stabilité et la sécurité dans n'importe quel pays ou région. Donc le RDC a toujours coopéré avec la Cour pénale internationale. C'est maintenant presque 10 ans que nous sommes là. La RDC est un de la pays d'abord qui a transféré 4 de ses ressortissants à la Cour pénale internationale, et la RDC continue à coopérer avec la Cour pénale internationale. Je pense qu'ensemble, nous pouvons mettre fin à l'impunité.
Est-ce que la RDC a encore bien coopéré avec la CPI dans l'affaire Omar El-Béchir qui vient de se séjourner tout récemment en RDC?
Oui, comme je vais dire, je pense que c'était hier, c'est un peu complexe parce qu'on a eu des entretiens avec les autorités concernées pour avoir reçu le président El-Béchir ici, mais ils nous sont assurés que ce n'était pas à l'invitation de la RDC que Béchir a visité. C'était le commissaire et c'était un peu complexe de lui arrêter ou de lui dire qu'il ne peut pas venir en RDC. Donc, le RDC, depuis cela, les autorités ont vraiment montré à la Cour pénale internationale des raisons pour lesquelles M. Béchir a visité le RDC. Même demain, je pense qu'ils vont donner aussi encore des détails à la Chambre des raisons pour laquelle le président Béchir est venu visiter.
Vous avez dit que dans le cadre de la complémentarité, la CPI pourrait appuyer, soutenir le système judiciaire congolais, oui. Puisque la CPI ne peut pas juger toutes les affaires à la fois. Il faut que la RDC arrive aussi, ouais, à juger ses propres criminels. Ouais. Comment comptez-vous soutenir ce système judiciaire congolais?
Vous voyez, la Cour pénale internationale est en cours de dernier ressort. Ce n'est pas un cours qui va remplacer les juridictions nationales. C'était pas faire pour ça, établir pour ça. Donc, la responsabilité de la primauté de enquêter, de poursuivre reste toujours avec la RDC. Et nous sommes en train de trouver des moyens sur la base de complémentarité de coopérer avec la RDC, parce que aussi ils ont dit qu'ils vont faire des efforts pour juger, pour enquêter les personnes responsables pour les crimes les plus graves. Et nous, en tant que Cour pénale internationale, nous allons complémenter ces efforts-là.
10 ans après sa mise en place, donc je parle de la CPI, il y a eu 3 affaires qui ont été jugées. L'affaire Thomas Lubanga qui a connu une condamnation et l'acquittement de Mathieu Ngoudjolou et tout récemment c'est Germain Katanga. Estimez-vous que le bilan est vraiment élogieux pour la CPI dans 10 ans? Est-ce que le travail a été bien abattu? On peut se réjouir de ce bilan?
Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas seulement les affaires en RDC que la Cour pénale internationale est en train d'enquêter ou de juger. Il y a des autres affaires ailleurs que nous sommes en train de juger. Et avec les 10 dernières années, nous savons que de poursuivre et d'enquêter des situations complexes, ça prend du temps. Et il faut être patient. Parce que moi, je pense que la Cour pénale internationale est devenue un acteur très pertinent dans la lutte contre l'impunité.
Et comment se présente la situation prochainement? Est-ce qu'il y a un agenda sur les affaires en cours à l'RDC que vous comptez encore poursuivre, qui doivent être encore instruites?
Non, pour le moment, c'est presque, je peux dire que c'est un moment de transition, parce qu'on est en train maintenant de regarder où nous allons commencer les autres enquêtes, où nous allons continuer les autres enquêtes. Et ça aussi dépend de la gravité des faits dans n'importe quelle région. Bon, nous sommes en train de faire l'évaluation.
Il y a beaucoup de critiques, de mauvaises critiques qui sont dirigées contre la CPI, qui est accusée de partialité, qui serait en train de subir les influences des puissances occidentales. Ça ressemble à une épée de Damoclès suspendue sur les seuls Africains. Comment vous réagissez face à toutes ces critiques?
C'est faux, vraiment. Il n'y a pas de base de dire ça, parce que il y a, par exemple, il y a pour le moment 8 affaires devant la Cour pénale internationale, et 5 de ces affaires-là ont été déférées à la Cour par les États mêmes, les États africains. Donc comment on peut dire que c'est la Cour qui poursuit seulement les Africains. Au contraire, je pense que c'est les États africains qui engagent la Cour. Mais nous sommes réagir dans tous ces engagements-là avec beaucoup d'indépendance, mais aussi d'impartialité. Donc, ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct de dire ça. Même les trois autres, les deux ont été référés à la Cour par le Conseil de sécurité. Donc, il n'y a pas de base de dire ça. Mais il y a quelques-uns qui pensent qu'il faut dire ça pour décourager le travail de la CPI. Et dans tous les cas, par exemple, que nous sommes en train d'enquêter ou de poursuivre, si vous regardez, c'est seulement la CPI qui est en train de faire la justice pour les victimes. Et il faut toujours pas oublier que les victimes sont des victimes africaines.
Madame Bensouda, je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup.
Notre nouvelle de province revient sur la visite mardi du centre de triage et de transit des ex-combattants venus du Nord Kivu à la base militaire de Kanina par une délégation mixte MONUSCO-Lubumbashi et 6e région militaire. Objectif, évaluer les conditions d'hébergement, la situation humanitaire et sécuritaire depuis l'arrivée de ces ex-combattants dans cette partie de la province du Katanga. Madeleine Waila, qui a été l'œil et l'oreille de Radio Okapi à la base militaire de Kanina, nous en parle.
Ils sont plus de 1100 ex-combattants, parmi lesquels 38 femmes, qui sont hébergées depuis plus d'une semaine à l'école pilote de la base militaire de Kamina, située à plus d'une trentaine de kilomètres de la ville. Ces ex-combattants sont issus de différents groupes qui ont jadis combattu la rébellion du M23 au Nord Kivu. C'est notamment Raya Mutomboki, APCLS, FPC, FPD, Nyantura, Nyiragongo. Leur âge varie entre 15 et 30 ans. Dans ce groupe, on y compte aussi quelques mineurs.
Comment vous trouvez votre séjour à Kamina?
En tout cas, c'était un séjour agréable. Nous sommes bien encadrés, on nous a bien accueillis. Pour nous autres, c'est une grâce.
Quelles sont vos grandes attentes par rapport à votre déploiement ici?
Ce n'est que tout simplement être intégré.
Quelles sont les raisons qui vous ont fait intégrer dans l'armée nationale?
Nous avons vu l'ennemi à qui nous combattions ensemble. Il est déjà maître hors d'état de nuire. Nous sommes dit, comme patriotes, allons vers le gouvernement. Il n'y a plus le temps de rester dans la brousse. C'est le moment de travailler pour les Congolais.
Qui était votre ennemi?
Notre ennemi était le M23 et les Rwandais.
Et maintenant que vous vous trouvez ici à Kamina, comment est-ce que vous vous sentez?
Nous nous sentons à l'aise, nous sommes chez nous, il n'y a pas de problème.
Lors de cette visite, le commandant de la 6e région militaire a rappelé aux ex-combattants qui sont d'abord Congolais et qui n'ont pas des raisons de se sentir dépaysés. Il a insisté sur le respect des règlements militaires. Général Mboya Masiyona.
Nakosenga bino, boyela nga kimia, boye ko vanda na boboto. Baninga wa yami bino na kimia, boya pe na kimia wana. Tosala musala ya soda tozana yango, makambo ya kubeta na beta na izalite.
La délégation de la MONUSCO conduite par M. Adama Nian s'est réjouie de la décision prise par ses ex-combattants d'accepter de déposer les armes et promouvoir la culture de la paix. Le chef de bureau à l'intérim de la base MONUSCO Lubumbashi a ensuite rassuré aux ex-combattants que le mandat de la MONUSCO est d'aider le Congo à retrouver une paix durable. Et cela n'est possible qu'avec le concours des Congolais.
La MONUSCO agit suivant la résolution 2098. Qu'il impose à accompagner le gouvernement de la RDC pour la mise en place d'un état de droit, pour la mise en place d'un état fort, pour la mise en place d'un état où règne la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement.
Le commissaire du district du Haut-Lomami a mis l'accent sur le fait qu'ils doivent surtout éviter les cas de viol et les sorties non autorisées dans le site de ses environs. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Astrid Mushinga Zambi, Mukeba, c'est le nom de mon époux, mariée et mère de 5 enfants. Je suis licenciée en pédagogie appliquée au sein français et linguistique africaine. Je suis à la MONUSCO depuis plus de 10 ans, comme journaliste reporter, pour être beaucoup plus concrète, depuis 12 ans. En tant que journaliste, je quitte la maison en 7h30 pour le quartier général de la MONUSCO, où se trouve la radio Capi. Toute la journée, c'est le terrain, le reportage, enfin la rédaction, la diffusion de l'info et d'autres tâches connexes. De retour à la maison, comme j'ai quand même un domestique, je dois passer à la cuisine, examiner ce qui s'est fait à mon absence et si tout n'a pas été bien fait, et je le fais à mon goût. C'est après que je peux me mettre devant la télé avec mon mari et les enfants, juste pour échanger pendant quelques heures et passer ensemble la soirée. Il m'arrive en ce moment-là d'avoir aussi quelques inspirations et là je note sur mon portable. Et c'est pour dire que je suis écrivaine, j'ai déjà publié deux romans et une nouvelle. Et je viens de terminer un autre manuscrit intitulé « Dans les méandres de l'opportunisme ». J'ai en même temps dans le chantier un autre manuscrit, c'est un essai qui s'intitule « Les fondements bibliques de la parité ». Disons qu'avant de venir à la Monusco, j'ai été professeur de français dans les classes terminales d'une grande école secondaire conventionnée catholique de la place, le collège Alpha Géry. J'ai été coordinatrice ou présidente de certaines associations des femmes où j'ai milité pour la cause de celles-ci en dénonçant toutes les inégalités et injustices dont les femmes sont victimes. Et j'ai été également présidente d'une association culturelle, le réseau des associations de la francophonie que j'ai moi-même fondé. J'ai été présidente du comité de gestion de l'Alliance franco-congolaise de Bukavu pendant 5 ans. Je suis alors entrée à la radio Kapi comme traductrice d'abord du desk Chilba pour devenir enfin journaliste reporter jusqu'à aujourd'hui. Mais je dois souligner aussi que j'ai eu plusieurs formations dans le journalisme ici au pays comme en dehors du pays. Ma vie, j'aime beaucoup la lecture, surtout la lecture des œuvres des auteurs classiques, la Bible aussi. J'aime la parole de Dieu, alors voilà pourquoi j'aime beaucoup lire la Bible. Mais il y a aussi des bandes dessinées. Je les aime également parce que c'est depuis ma tendre enfance que je les lisais. Ce sont les bandes dessinées d'ailleurs qui m'ont donné le goût de la lecture. Et j'aime également la musique religieuse et la musique douce. Il m'arrive aussi de préférer beaucoup voyager, parce qu'en voyageant, je découvre d'autres cieux, je rencontre d'autres personnes, et cela me donne aussi de l'inspiration. En matière de nourriture, j'aime les bananes plantains, frites avec du poulet. J'aime également des fruits, surtout des fruits sucrés, et des fruits, disons, acidulés. En projet d'avenir, et je continue à écrire, et je voudrais être connue des grandes maisons d'édition, faire éditer par exemple des milliers d'exemplaires de mes ouvrages. Pourquoi pas créer une maison d'édition, car plusieurs écrivains congolais demeurent dans l'ombre parce que justement nous n'avons pas de maison d'édition ici au sud Kivu et d'une façon générale dans le pays. Je vous remercie.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question du jour porte sur la violation du territoire congolais par les troupes rwandaises à Munigi. Elle a été posée au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies.
Au kit papy du journal Écho d'Opinion, ma question je l'adresse au colonel Félix Vasque. La société civile du Nord Kivu dénonce depuis plus d'un mois la violation par l'armée rwandaise du territoire congolais à Munigi, précisément le territoire de Nyiragongo, soi-disant qu'il se protégeait contre les FDLR. Pourquoi la MONUSCO n'arrive pas à dénoncer cette situation? Est-ce que la MONUSCO aussi, comme le gouvernement congolais, ont peur de dire que le Rwanda est tenté de violer le territoire congolais? Merci mon collègue.
Merci pour cette question. Je voudrais tout simplement la recadrer dans un contexte beaucoup plus global. Je salue d'abord le rôle de sentinelle de la société civile du Nord Kivu, concernant justement la prise en compte de toutes ces menaces globales. Mais je pense aussi qu'il faut considérer le mécanisme qui a été mis en place, aussi bien par les pays de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, qui consiste à mettre en place un mécanisme qui s'appelle le mécanisme conjoint de vérification. Et je pense que, au-delà des accusations, au-delà du rôle de cette société civile, ce mécanisme est sur le terrain et fait son travail. Et il n'y a pas très longtemps, nous avions ici évoqué aujourd'hui le rôle prépondérant de la MONUSCO dans ce mécanisme, parce que jusqu'à une date récente, nous n'étions pas partie du mécanisme. Aujourd'hui, nous y sommes. Eh bien, les hommes sont sur le terrain et je pense que si toutefois une telle violation avait été constatée, elle sera mise à l'ordre du jour et je pense que au niveau du leadership de la MONUSCO, les gens ne cessent avec des efforts conséquents, de dénoncer, de mettre sur la table tout ce qui n'en va pas. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des preuves suffisantes pour dire que le Rwanda a violé le territoire congolais. Je ne veux pas m'avancer dans ça, mais ce mécanisme est là, et si tel était le cas, il le déterminera et sera mis à l'ordre du jour.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
La semaine qui débute sera riche en journées internationales. Notez-en quelques-unes dans vos carnets. Le 20 mars, journée internationale de la francophonie. Le 21 mars, au moins 3 autres journées internationales sont à retenir. Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, journée internationale des forêts et journée mondiale de la poésie. C'est la fin de ce magazine hebdomadaire consacré aux activités des Nations Unies. Moi, Mila Kimwini, j'ai eu le plaisir de vous le présenter avec l'assistance technique de Bob Landou du côté de la régie. Cette émission a été supervisée par Julien Niamouini, coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco et Honoré Missenga était au reportage. Vous pouvez retrouver le magazine sur notre site www.radiookapi.net. Trois manières de nous faire parvenir vos suggestions, vos questions ou vos remarques. Appelez-nous au 082 30 76 630, 082 30 76 630. Écrivez-nous à notre adresse mail maguen@radiokapi.net ou postez un commentaire sous l'émission sur le site www.radiokapi.net. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous.